France Musique.
Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans nos arabesques qui se dérouleront aujourd'hui en compagnie de Martine Moni, Emmanuel Benito, Xavier Atto, Frédéric Kiefer et Olivier Dehay. Voici la première émission d'une série que nous allons consacrer à Igor Stravinsky, mort il y a un demi-siècle, le 6 avril 1971 à New York, à l'âge de 88 ans, ce sera demain, le jour J, après avoir laissé à la postérité une œuvre centrale dans l'histoire de la musique, avec des partitions comme le Sacre du Printemps, gigantesque Révolution rythmique de 1913. Mais je vous propose cette semaine de nous concentrer sur un aspect précis de l'œuvre de Stravinsky, c'est la voix, les œuvres vocales. Que ce soit pour voix soliste, pour chœur ou même pour récitant, Igor Fyodorovitch Stravinsky étant le fils d'un chanteur professionnel, le chanteur basse Fyodor Stravinsky, qui meurt en 1902. Igor a 20 ans et il compose cette année-là la première mélodie que nous connaissons de lui. Nuage qui survit à la tempête, tu flottes seul parmi l'azur en fait. Voilà comment commence ce poème de Pouchkin mis en musique le 25 janvier 1902 à Saint-Pétersbourg par un Stravinsky de 19 ans et demi. Nuage, chanté ici par Olga Romanko avec le pianiste Viktor Samoylenko. Igor, fils de Fyodor, qui fut pendant 25 ans basse du Mariinsky de Saint-Pétersbourg. Igor qui rencontre en 1902 son maître Nikolaï Rimsky-Korsakov, magicien de l'orchestration et grand compositeur d'opéra, mort du père naturel et rencontre du père spirituel en cette année 1902, lors de laquelle Claude Debussy présente à Paris son Pelléas et Mélisande, qui va marquer en profondeur l'art du chant. Nous allons aujourd'hui écouter les œuvres vocales écrite par Igor Stravinsky jusqu'à la Première Guerre mondiale, en passant par Paris, dans la grande aventure des ballets russes, et la Suisse romande de l'écrivain Charles-Ferdinand Ramu, avec qui Stravinsky fera l'histoire du soldat au programme demain, et Renard, qui va conclure cette première émission. Mais pour l'heure, nous sommes toujours dans la Russie du tsar Nicolas II, à Saint-Pétersbourg, et Stravinsky trempe de nouveau sa plume dans l'encrier de Pouchkine, en composant en 1906 « Bergère et Faune », chanté ici par Mary Simmons, sous la direction du compositeur. Thank you.
dispiacere. Tu stai tra vie legit, lascer tenic veneri, sto sado ion gledit. Nag nulas mecht fatami, cos matai anoga, nad cruste mea ciami, na vislit varoga.
Faun i pastushka, faune et bergère, voilà le titre de cette mélodie de Stravinsky. Une bergère pense à son bien-aimé près d'une rivière, mais un faune lubrique se jettera sur elle avant qu'elle ne se plonge dans cette rivière en 1964. Igor Stravinsky dirigeait l'orchestre symphonique de la CBC, radio canadienne, accompagnant la soprano Mary Simmons dans cet opus 2, conçu en 1906 et orchestré plus tard. C'est une des toutes premières œuvres de Stravinsky jouées en public. 1906, c'est l'année de son mariage avec sa cousine Katerina, qui lui donnera 4 enfants à partir de l'année suivante. C'est aussi l'année où il entame sa symphonie en mi bémol majeur, qui va le faire connaître du public pétersbourgeois, suivi de Scherzo fantastique et Feu d'artifice, deux partitions annonciatrices des grands ballets parisiens, et encore influencé par son maître Nikolaï Rimsky-Korsakov, qui meurt en 1908. D'ailleurs, la création de Feu d'artifice en 1909 permettra à Stravinsky de rencontrer l'impresario des ballets russes, Serge de Diaghilev.
Oh!
Olga Romanko et l'orchestre de chambre du Bolchoï, dirigé par Alexander Golichev. C'était Pastoral, une chanson sans parole de 1907 que Stravinsky a composée dans la datcha familiale, dans la propriété familiale de Oustilug en Ukraine. Une partition qui va connaître de nombreuses versions alternatives, notamment pour violon et piano. Igor Stravinsky a orchestré presque toutes ses mélodies, à quelques exceptions près, comme son opus 6 de 1908. Deux mélodies sur des poèmes de Sergueï Gorodetsky, mélodies non orchestrées, mais qui pourtant ne manquent pas d'intérêt. Stravinsky, probablement influencé par Moussorgski, y trouve une veine religieuse qu'il va développer dans des œuvres ultérieures. Voici par exemple la Rosée Sainte, terre fertile, noire et humide, nuit noire dans la chaumière, viens, esprit nourricier, apporte-nous l'eau sur tes ailes, cette eau nous donnera la foi.
Игрушки в поле.
croyez en Dieu, écrit Sergueï Gorodetsky en conclusion de son poème La Rose est sainte, mis en musique en 1908 par Stravinsky, avec également un autre poème intitulé La Novice. C'était Elena Vassilieva, chantant ici avec le piano de Jacques Chab. Et l'année suivante, 1909, Stravinsky orchestrera deux chansons de La Puce, d'après le Faust de Goethe, deux chansons de Méphistophélès, version Beethoven et version Moussorgski, qu'on écoutera demain en début d'émission.
Arabesque, François-Xavier Chemchak, France Musique.
Igor Stravinsky fait partie de la bourgeoisie russe. Il est même descendant d'une famille d'aristocrates polonais, la famille Stravinsky-Sulima. Et dans ce genre de milieu, à cette époque, l'apprentissage de la langue française est presque un passage obligé, comme l'apprentissage du piano. Et c'est en français que Stravinsky écrit ses mélodies suivantes. Alors, pas n'importe quelle langue française, celle de Paul Verlaine, dont Igor illustre deux poèmes en 1910, « La lune blanche » et un grand sommeil noir, chanté ici par François Leroux.
Thank you.
en blanc et noir comme les touches du piano. C'était Un grand sommeil noir et à l'instant La lune blanche, deux poèmes de Paul Verlaine, mis en musique en 1910 par Igor Stravinsky et chanté par François Leroux avec l'orchestre philharmonique de Monte-Carlo dirigé par John Nelson. Orchestration réalisée 40 ans plus tard, au début des années 50, ce qui traduit l'affection que Stravinsky gardera pour ses œuvres impressionnistes de sa jeunesse, même à l'époque de son tournant dodécaphonique qu'on évoquera à la fin de la semaine dans cette série d'émissions sur Stravinsky et la voix. 1910, c'est l'année de la création à Paris de l'Oiseau de Feu, qui fait de Stravinsky une véritable vedette du jour au lendemain. Le tout Paris découvre celui qui est depuis peu le compositeur officiel des ballets russes de Diaghilev. Ce sera bientôt les grandes heures de Petrouchka et du Sacre du Printemps, dans lesquelles Stravinsky déploie son génie orchestral et surtout opère une révolution rythmique sans précédent. Mais la voix humaine continue de le fasciner et lui permet d'explorer l'univers symboliste du poète Constantin Balmont, futur grand ami de Sergueï Prokofiev. Constantin Balmont, dont voici deux poèmes chantés par la regrettée Christiane Hédapierre, La fleur et le pigeon. Gilbert Ami à la tête du domaine musical accompagnait Christiane Hédapierre dans ses deux poèmes de Constantin Balmont, La fleur et le pigeon, qui permet à Stravinsky de se familiariser avec l'univers symboliste de ce poète Constantin Balmont qui va lui offrir la matière d'une partition absolument fascinante. C'est Zvezdoliki, le roi des étoiles, un chœur d'hommes accompagné d'un orchestre gigantesque pour seulement 5 minutes de musique, ce qui explique qu'on entend assez peu cette œuvre exigeante du point de vue de l'instrumentation, œuvre inspirée des harmonies debussistes et dédiée à Claude Debussy, Alors après la lecture de la partition, flattée par cette dédicace, Debussy écrira avec un certain sarcasme devant ce qu'on pourrait appeler une certaine mégalomanie de l'œuvre. Je cite Debussy, « La musique pour le roi des étoiles reste extraordinaire. C'est probablement l'harmonie des sphères éternelles dont parle Platon. Ne me demandez pas à quelle page. Et je ne vois que dans Sirius ou Aldébaran, nom de deux étoiles célèbres, une exécution possible de cette cantate pour monde. » Debussy écrit monde au pluriel et entre guillemets. Et il conclut, quant à notre plus modeste planète, j'ose dire qu'elle restera telle une gaufre à l'audition de cette œuvre. Zvezdoliki, le roi des étoiles d'Igor Stravinsky, sur un poème mystique de Constantin Balmont. C'était le chœur du Conservatoire de la Nouvelle-Angleterre et l'Orchestre Symphonique de Boston dirigé par Michael Tilson Thomas. Nous sommes donc là en 1912. Stravinsky entre de plein pied dans la modernité. On peut même dire qu'entre Paris et le lac Léman, il invente une certaine modernité en écrivant alors le Sacre du printemps, allant de l'infiniment grand à l'infiniment petit, du gigantisme de Zvezdoliki et du Sacre aux miniatures de ce bijou que sont les trois poèmes de la lyrique japonaise. Ce sont des haïkai, poèmes japonais de tout petit format, mais d'une grande profondeur, écrits au 8e et 9e siècle de notre ère, mis en musique à cette époque par Igor Stravinsky. Tandis qu'Arnold Schoenberg conçoit son Pierrot Lunaire, Igor Stravinsky compose ses trois poésies de la lyrique japonaise, Akaito, dédiée à Maurice Delage, Masatsumi, dédiée à Florent Schmitt, et Tsarayuki, dédiée à Maurice Ravel. Et c'est la voix de Dawn Upshaw que nous entendions dans ces trois poésies de la lyrique japonaise. Stravinsky a orchestré et enregistré la plupart de ses œuvres. Nous l'entendions tout à l'heure dans Faune et Bergère. Bien voici une modeste partition d'inspiration populaire russe, de petites chansons animalières, mais qui nous permettent de retrouver non seulement le chef d'orchestre Stravinsky, mais aussi l'immense cantatrice Katy Berberian. Thank you.
cinque, ci, ci, ci. Sarà cinque, ci, ci, ci. Na jelmočko nie skoči. Skočila na jelmočko, slomila головушку. Dajte mi verovočku, zavjet za головушку. Sarà cinque, ci, ci, ci. Еду как-то я на мост, на мусто ворона сохнет, хвет ворона, я совхоз.
Petite pie, le corbeau et à l'instant le chouka. Voilà les trois animaux évoqués dans ces petites chansons d'Igor Stravinsky, dirigées par le compositeur avec l'Orchestre Symphonique de la Columbia qui accompagnait Cathy Berberian. Et vendredi, nous conclurons cette série d'émissions sur Igor Stravinsky et la voix par la voix de Stravinsky, répétant notamment la deuxième mélodie qu'on vient d'entendre, le corbeau avec Cathy Berberian, un document absolument exceptionnel.
Arabesque, François-Xavier Chemchak, France Musique.
Je vous le disais, en 1909, Stravinsky avait orchestré deux mélodies de Beethoven et de Moussorgsky sur un même texte, la chanson de la puce, interprétée par Méphistophélès dans le Faust de Goethe. On écoutera ça demain. Mais voici un autre travail d'orchestration, Stravinsky, c'est le final de la Khovanchina de Modeste Moussorgsky. Voilà un opéra laissé inachevé à la mort de Moussorgsky en 1881. Un opéra que son ami Nikolaï Rimsky-Korsakov, futur maître de Stravinsky, avait lui-même achevé. Alors achevé à tous les sens du terme, d'après les détracteurs de Rimsky-Korsakov, qui l'accusent d'avoir trop polissé le langage musical rude de Moussorgsky. Alors, en 1913, Diaghilev avait voulu présenter au public français une nouvelle Khovanchina de Moussorgsky, plus conforme à l'esprit du compositeur. Et pour cela, il avait sollicité deux compositeurs illustres, Maurice Ravel, qui a réorchestré les actes 1 et 3 de cette partition, et puis Stravinsky, qui s'est chargé du chœur final. Le chœur de l'Opéra de Vienne, le chœur philharmonique de Bratislava, les petits chanteurs de Vienne et l'orchestre de l'Opéra d'État de Vienne étaient dirigés par Claudio Abbado dans le chœur final de la Chorvanchtina de Moussorgski, dans cette orchestration de 1913 signée Igor Stravinsky, Stravinsky qui présentait aussi cette année-là son Sacre du printemps, inspiré de vieilles légendes russes. Alors l'année suivante, en 1914, Stravinsky va puiser de nouveau dans ce répertoire populaire russe, dans des textes recensés par Alexander Afanassiev, des textes populaires, des textes paysans, pour écrire Pribaoutki. C'est un cycle de quatre chansons qui nous donne le plaisir de retrouver de nouveau Katy Barberian, et qui plus est, accompagnée par son ex-mari, le grand compositeur Luciano Berio, dirigeant ici l'Orchestre Philharmonique de Rotterdam. Voici sur France Musique Pribaoutki d'Igor Stravinsky.
На піску приразмич Варетка ску Стоїть брашка та носку Брашка п'яна, я п'яна Весела, хмельная голова Брашку парной випивай Наташка, Наташка, зліда кукулашка, сладка медовая, п'яче не бивала, жару не видала. Заіграли отмітки, жирові пошли в лісок, довгі ноги в листа в'ят, довгі ще протягать. Пошов полковник погулять. Поймав птичку перепьолочку. Птичка перепьолочка підпохотіла, подняла з політіля, пала пропала.
L'oncle Armand, Natacha et le four, le colonel Et enfin, Le Vieux et le Lièvre. Voilà les titres de ce cycle intitulé Pribaoutki d'Igor Stravinsky, chanté par Cathy Berberian en 1974, donc 60 ans après la composition de cette partition. L'orchestre philharmonique de Rotterdam était dirigé par Luciano Berio. Le Tout Paris célèbre Igor Stravinsky et les ballets russes, en particulier après le scandale retentissant de la création du Sacre du Printemps au Théâtre des Champs-Élysées. Et les portes de l'Opéra de Paris s'ouvrent pour le compositeur qui fête ses 32 ans en cette année si particulière que fut 1914. Le 26 mai 1914, le Palais Garnier accueille la création du premier opéra de Stravinsky, Le Rossignol, sur un livret coécrit par le compositeur d'après un célèbre conte d'Andersen, Le Rossignol et l'Empereur de Chine. Alors voilà une partition sur laquelle Stravinsky travaillait depuis plusieurs années, depuis 1908 même, année de la mort de son maître Rimsky-Korsakov. Et Korsakov, rappelons-le, est l'auteur de l'opéra Le Coq d'Or, qui possède beaucoup de points communs avec ce Rossignol, notamment l'orientalisme. Alors le fidèle Pierre Monteux, chef d'orchestre, avait dirigé la création du Sacre du Printemps. Eh bien, c'est lui qui était dans la fosse de l'Opéra de Paris en 1914 pour créer le Rossignol, avec dans la fosse les chanteurs, tandis que des danseurs évoluaient sur la scène dans les décors d'Alexandre Benois. Eh bien, voici justement l'orchestre de l'Opéra de Paris, dirigé cette fois-ci par James Conlon, dans ce Rossignol, avec tout d'abord la marche chinoise.
головушка здесь, и твои боли страха нажитает.
Probablement reconnu, c'était Nathalie Dessay dans le rôle-titre du Rossignol et son époux Laurent Naouri dans celui du Chambellan, un extrait du Rossignol d'Igor Stravinsky avec l'orchestre de l'Opéra de Paris dirigé par James Conlon.
Arabesque, François-Xavier Chemchak, France Musique.
Alors après ce Rossignol chinois, voici maintenant un renard suisse et un chat russe. Le renard suisse, c'est celui que Stravinsky conçoit pendant la Grande Guerre avec Charles Ferdinand Ramu et que nous écouterons intégralement dans quelques instants. Et le chat russe, eh bien, c'est une nouvelle série de délicieuses miniatures vocales intitulée « Berceuse du chat » de 1915-1916. Là encore, ce sont de petits textes populaires russes adaptés en français par Ramu et qui feront l'admiration d'Anton Webern. Cette partition de Stravinsky est étonnante. Ses chants sont merveilleux et cette musique m'émeut complètement. Je l'adore. Et les berceuses sont indescriptiblement touchantes, comme ces clarinettes sonnent bien. Beau compliment du compositeur Anton Webern, qui écrivait ainsi à son collègue et ami Alban Berg au sujet des berceuses du chat de Stravinsky, chantée ici par Marie-Thérèse Keller, avec la clarinette de Jérôme-Julien Laferrière, la clarinette basse d'Arnaud Leroy et la petite clarinette d'Olivier Derbès. Après le rossignol chinois, après le chat russe, voici maintenant, comme promis, un renard suisse, suisse roman. C'est tout simplement « Renard », titre d'une partition commandée à Stravinsky par une fameuse mécène de la musique, la princesse de Polignac. Une histoire burlesque, comme nous dit le sous-titre que Stravinsky a trouvé dans les contes populaires russes d'Alexander Afassiev que je citais tout à l'heure. Alors, « Renard suisse », oui, « Russo-suisse » dirons-nous, puisque cette œuvre a été adaptée en français par l'écrivain vaudois Charles-Ferdinand Ramu, auteur de « L'histoire du soldat » programmé demain. Une œuvre qui met en scène un coq, une chèvre, un chat et le renard éponyme. Le renard déguisé en religieuse puis en mendiante attaque le coq pour le manger, mais ce dernier sera sauvé par le chat et le bouc, qui auront la peau du renard. Voilà en gros l'intrigue de cette partition où Stravinsky déploie de nouveau son génie rythmique en s'aidant notamment des sons percussifs et métalliques du cymbalum. Voici sur France Musique « Renard » de Stravinsky et Ramu avec Michel Sénéchal dans le rôle du coq, Hugues Cuenot dans le rôle du renard, Heinz Refus chante la chèvre, Xavier Dopras le chat, le cymbalum d'István Arató et l'orchestre de la Suisse romande dirigé par Ernest Ansermet.
Désert, mais ni bu ni manger. Je garde la maison. chanson.
Oh, Gringos de mio coq, credo te bien coiffé, le regard var frisé, bel habillé, tout en velours. Oh, seigneur coq, ouvre-moi.
Non, je ne t'ouvrirai.
Je te donnerai des
petits pois. Pas les petits pois.
Les coqs aiment seulement le grain. Renard parle, ils n'entendent rien.
Petit coq, j'ai une grande maison tout près de grain. Tu y en auras tant que tu voudras.
Oui, oui, oui,
j'ai pas faim.
Coq, grippe, seigneur coq, crête t'es bien coiffé, clair. Regarde, frisé, beau seigneur, ouvre-moi, je t'apporte un morceau de pain.
M'ennuie-toi avec ton pain. Pas si bête, pas si bête, je garde mon bien, garde ton rien.
Et sans doute tu es perdu, perdu. Et d'encore plus bas jusqu'à la mer. Et je t'emporterai tout vivant dans le ciel.
Oh, nelle belle, toute belle, oh, nelle belle.
celle qui t'appelle, c'est ce qu'on a sous son manteau, c'est un grand couteau.
Oh, vous mes chers, mes yeux qui aident, qu'avez-vous fait, qu'avez-vous fait, mes yeux?
On a guigné, 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 pour que les tempêtes viennent se reposer.
Oh, vous m'êtes si léger, pas à courir, qu'avez-vous fait, mes légères qui pourront servir?
On a couru dans mon âme, les méchants bêtes sont pas.
Et toi, tu frises.
Oh, là, je me suis accroché.
La suis pris dans la haie.
Et les bêtes ont attrapé.
Déjà,
c'est que j'ai mon petit commerce, il ne peut pas se passer de moi.
Jean-Louis tape sur sa femme,
il tape sur son maracas, il crie les chiens par la voix.
Les enfants sont au bois,
ils ont mis ta
voix. Et Renard, ne vas-tu pas, on a du chocolat. Renard a dit ça va, sur la place du village, les loups battaient les doigts. Renard se dérange pas, Renard est sur le point, car Renard les voilà. Il a sauté par terre, il s'est cassé le bras.
Zoom, 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 tata, zoom, tata, zoom, c'est un vieux pour les
coulisses. Ainsi qu'on dit,
zoom, 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 tata, zoom,
que l'histoire finit.
Zoom, 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 tata, zoom, tata, zoom, tata, zoom, tata, zoom. À présent, on va aller, où sera quoi manger, où sera quoi boire, il ira, où sera des bons beignets, à lui doit être là, dans le bon animaux.
Seigneur, pardonnez-nous, sur sa bête et Jean Bandeau, sur l'homme sa tête, dans sa tête, rien n'est beau.
Et voilà qu'il pleut, on a fait un bon feu.
Oh, l'honneur, nos messieurs.
Nos messieurs sont arrivés, leurs chiens ont fait coucher.
Leurs chiens se sont fâchés, Renard a empoché.
Et si l'histoire vous a plu,
payez-moi ce qui m'est dû.
Ernest Ansermet dirigeait l'orchestre de la Suisse romande avec le cimbalum d'István Arató dans Renard d'Igor Stravinsky, sur un texte adapté en français par Charles-Ferdinand Ramu. Renard chanté par le ténor Hugues Cueno, le ténor Michel Sénéchal chantait le coq, le baryton Heinz Réfus était la chèvre et la basse Xavier Deprat le chat. Demain, nous retrouverons Igor Stravinsky et les musiques vocales avec justement l'histoire du soldat d'après Ramu, avec Pulcinella, avec Mavra ou encore les noces. Et dans quelques instants, ce sera Relax avec Lionel Esparza.
À réécouter sur francemusique.fr.